Radio Kapi.
Oh, Kapi. Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation. Prolongation pour 15 jours de la trêve humanitaire en vigueur à l'est de la RDC. Cette trêve qui devra prendre fin demain 19 juillet à minuit est prolongée à la demande du gouvernement américain dans un communiqué signé d'hier mercredi. Pour Washington, c'est une autre occasion pour la paix. Afflux des éleveurs Mbororo à Yakoma, territoire du Nord Ubangi. Le groupe de plus de 300 éleveurs arrivés lundi dernier y trouve un autre groupe d'Mbororo qui semble leur être hostile. La société civile demande aux autorités congolaises de repousser à temps ces envahisseurs, craignant un éventuel accrochage à Yakoma entre les deux groupes d'Mbororo. Professeur Kaumba Lufunda, sénateur honoraire et l'invité de Radio Okapi, il est l'auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela. Il va parler de la journée internationale Nelson Mandela célébrée ce 18 juillet. Bonjour à tous. La trêve humanitaire en vigueur à l'est de la République démocratique du Congo depuis bientôt deux semaines doit prendre fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Cette trêve a été prolongée de 15 jours supplémentaires. L'annonce a été faite par le gouvernement américain dans un communiqué signé d'hier mercredi. C'est une nouvelle opportunité pour la paix, précise Washington dans ce communiqué. André Kitenge pour les détails.
La première trêve humanitaire doit prendre fin ce vendredi 19 juillet à minuit. Elle vient d'être prolongée de 15 jours par les États-Unis d'Amérique et prendra donc fin le 3 août prochain. Dans un communiqué signé le mercredi 17 juillet, les États-Unis indiquent que c'est dans le cadre des efforts visant à mettre fin au conflit entre les FARDC et les rebelles du M23, tout en saluant cette prolongation de 15 jours acceptée par les parties au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le département d'État américain appelle tous les acteurs de la région à respecter cette trêve. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités, écrit le département d'État américain. Signalons que cette nouvelle trêve intervient alors que des combats sont signalés entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23, ce qui n'a pas permis aux organisations humanitaires d'accéder facilement aux zones où se trouvent des dizaines de milliers de déplacés et de retournés dans le territoire de Lubero. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En réaction, un notable du sud du territoire de Lubero au Nord Kivu demande l'ouverture d'un couloir humanitaire entre ce coin du pays et la partie nord du territoire de Rutshuru. De leur côté, d'autres acteurs déplorent le fait qu'aucune action humanitaire concrète n'a été rapportée durant les deux semaines de la trêve finissante. Depuis Goma, Bernard Danyangi.
Pendant les deux premières semaines de cette trêve humanitaire, des centaines de familles déplacées sont retournées dans leur village, notamment dans la chefferie de Buito, fait remarquer la coordination de l'ONG locale Veille Humanitaire œuvrant dans cette zone. Cependant, excepté quelques évaluations des besoins urgents de prise en charge médicale, aucune assistance humanitaire n'a accompagné ces retours des déplacés. Ce qui pousse Ezeka Nendou, notable et député provincial honoraire de Lubero, à plaider en faveur de l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la zone.
Plusieurs organisations humanitaires ont peur de travailler dans les zones sous contrôle du M23. Demandons à la même Maison Blanche de dire aux éléments du M23 de se retirer dans certaines zones comme la commune de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, à créer un couloir humanitaire qui sera supervisé par la MONUSCO. On fait de permettre une assistance digne et sécurisée dans les 15 jours de prorogation.
Près de 80% des populations de la partie nord de la chefferie de Buito sont déjà retournées dans leur village occupé par les rebelles du 1-23, indique l'ONG locale Veille Humanitaire. Un retour, selon elle, qui nécessite un accompagnement humanitaire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Sur le terrain au Nord Kivu, une accalmie est observée depuis deux jours dans la zone des combats qui ont opposé lundi et mardi les FARDC au 1-23 autour de Bweremana au sud du territoire de Masisi. L'armée congolaise avait accusé le M23 RDF d'avoir violé par des attaques contre ses positions la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Au niveau de Bweremana, la société civile déplore la perte de 7 personnes mortes à la suite des bombardements rebelles alors que 8 autres personnes ont été blessés durant ces deux jours de combat. Elle dénonce aussi la persistance de la fermeture de l'axe routier Sake-Bouerima-Naminova à la suite de l'occupation de Chacha par le M23, ce qui, pour elle, ne facilite pas le mouvement des humanitaires dans cette zone. Et dans le territoire de Beni, au moins 10 personnes ont été tuées hier mercredi dans une double attaque attribuée aux rebelles des ADF à Kazaroo et Moliso, deux villages du secteur de Benimbao. Des dégâts matériels ont été également enregistrés au cours de ces attaques. La société civile locale qui déplore cette situation parle jusque-là d'un bilan provisoire. C'est un reportage d'André Kitenge rendu par Sadiki Aboubakar.
C'est vers 9h mercredi matin que la première attaque a eu lieu à Kazaroo, village situé à 85 km au nord-ouest de la ville de Beni. Ici, 7 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées à l'arme blanche. Quelques heures plus tard, mais cette fois l'après-midi, la deuxième attaque est intervenue dans le village de Moliso, où 3 personnes ont été tuées. 2 motos et 2 maisons ont été également brûlées par les assaillants, affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Les ADF Nalu ont tué dans la matinée de mercredi vers 9h, 7 personnes, dont 4 hommes et 3 femmes. Ils ont incendié 2 motos et 2 maisons à Kazaroo, village situé à 2 km de Mamove, dans le secteur de Benimbao, tous habitants d'Ocha qui voulaient se rendre au marché de Beoumanyama. Vers 13h dans la même journée, ils ont tué d'autres personnes à Moliso, dans la même localité de Mamove.
Cet acteur de la société civile indique que plusieurs autres personnes ont été enlevées par ces rebelles des ADF. Kinos Katou recommande aux forces conjointes FRDC-UPDF d'intensifier les patrouilles des combats dans la région pour empêcher de nouvelles attaques. Tous les efforts pour avoir la version de l'armée se sont avérés vains. Rappelons que 3 autres personnes ont été tuées la nuit de lundi à mardi par ces mêmes rebelles des ADF près de Mamove.
Et puis, rencontre hier mercredi à Luanda en Angola entre le président angolais et le réseau des femmes pour la paix et la sécurité en RDC qui regroupe plusieurs associations et organisations féminines du pays. Ces femmes congolaises sont allées solliciter de Joao Lourenço la relance des négociations pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC en sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, URGL, et facilitateur du processus dit de Luanda. Selon la directrice du Fonds pour les femmes congolaises qui conduisaient cette délégation, le président angolais a plutôt accueilli favorablement leur démarche. Il a promis de s'investir pour le retour de la paix dans la région. Julien Lusenge est au téléphone de Martial Papimukeba.
Nous sommes venus rencontrer le président Lourenço pour venir solliciter et demander de relancer le processus de Luanda, demander aussi l'application de la feuille de route, le retrait immédiat des militaires rwandais de notre sol et ougandais, pour le retour rapide de la paix. La souffrance de la population est à son comble. On n'a plus de mots pour expliquer cette souffrance. Nous avons rencontré le président. Il a donné son engagement. Il nous a dit ceci. Quand la maison du voisin brûle, ils font venir avec un seau d'eau pour éteindre parce que sinon, le prochain, c'est vous. Ils nous ont dit et rassuré que l'Angola fera tout de son mieux et partant de son expérience, ils ont vécu dans la guerre et c'est passé. Maintenant, ils sont en train de reconstruire leur pays. Donc, ils veulent partager cette expérience, utiliser cette expérience pour restaurer la paix en RDC, comme ils ont eu à le faire ailleurs. Le président angolais nous a demandé, en tant que femmes, quand nous portons notre voix pour la paix, il y a les solutions qui arrivent.
La délégation des femmes congolaises a également rencontré la présidente du Parlement angolais et certains députés membres des structures parlementaires régionales pour solliciter leur implication pour le retour de la paix en RDC. En Ituri, la MONUSCO appuie les FRDC pour stopper la progression du M23 et mettre fin aux exactions des ADF qui constituent une menace pour le Nord Kivu et l'Ituri. C'est notamment à travers le renforcement de ses équipements militaires et de l'effectif des soldats aux côtés des forces loyalistes engagées au front. La chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection l'a dit mercredi au cours d'un point de presse avec le gouverneur de l'Ituri. C'était lors de la clôture de sa mission de 3 jours dans la province. Isaac Raymond.
Une nouvelle unité d'artillerie est déployée à Beni au Nord Kivu pour renforcer d'autres positions des casques bleus qui viennent en appui au FARDC contre la M23. Des hélicoptères de combat sont également sur place pour faire face aux menaces de cette rébellion, mais aussi pour arrêter sa progression dans d'autres localités au Nord Kivu et en Ituri, a déclaré la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection. Les casques bleus ont également installé des bases mobiles au site de Dirumu, notamment à Idowu, presque à la limite avec le Nord Kivu pour étouffer les menaces des ADF. Ils viennent vendre
And in terms of the En ce qui concerne nos capacités, nous les avons renforcées. Le déploiement des hélicos armés du côté de Beni, mais aussi nous avons une unité d'artillerie qui est arrivée en appui à nos forces et qui pourra donner un appui feu si cela s'avère nécessaire dans cette confrontation avec le M23.
Plusieurs opérations menées par les FARDC et la MONUSCO Sud du Rumu ont permis de démanteler les bastions des ADF à Moyo et Manzobe. Le gouverneur de province affirme que les deux forces continuent de travailler ensemble pour garantir la stabilité dans la zone. Le général Johnny Luboya.
Nous avions mené beaucoup d'opérations. Cela nous avait permis de réduire sensiblement les degrés de nuisance des ADF. Nous continuons toujours à travailler ensemble.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le territoire de Yakoma, province du Nord-Ubangi, fait face depuis lundi dernier à l'afflux de plus de 300 ménages des éleveurs Mbororo, avec plusieurs milliers de leurs vaches. Ils viennent directement du Soudan du Sud. Ces éleveurs Mbororo s'ajoutent au premier groupe venu de la province congolaise du Bas-Uele. Les deux groupes semblent se méfier mutuellement, ce qui fait craindre aux autochtones des luttes intestines entre Mbororo, d'où l'appel que la société civile lance aux autorités congolaises pour repousser à temps ces envahisseurs. Richard Malengela nous en dit plus.
Des témoins joints à Yakoma Centre affirment que le nouveau groupe de Mbororo, venu fraîchement du Sud-Soudan par la rivière Mbomo, s'est déjà éparpillé dans les groupements Bira et Lao Est, secteur de Yakoma, ainsi que dans les groupements Akwani et Pongo, secteur de Wapinda. Vu les verts pâturages qu'ils ont trouvés dans la région, leur leader serait retourné au Sud-Soudan, estime nos sources, afin de ramener d'autres éleveurs Mbororo qui viendraient paisiblement paître leurs troupeaux sur le sol congolais. Mais le nouveau groupe s'identifie révèle-t-on par des tatouages au front et des traditions musulmanes. Ce, contrairement à la première vague de Mbororo sans tatouage, venue du Bas-Uele. De l'avis des témoins, la cohabitation entre ces deux groupes n'est pas facile. Ils craignent que leur conflit vienne embraser tout le territoire de Yakoma, d'où l'appel lancé par le président territorial de la société civile, Jean-Didier Wulwulu, de les déquerpir le plus tôt possible.
Nous demandons aux autorités nationales, provinciales, de venir en aide plus tôt que possible, sinon ça va dégénérer.
Vous venez en aide, c'est-à-dire renforcer la sécurité.
Pas seulement renforcer la sécurité, mais chercher à les déquerpir.
Bon d'accord, prochain Malengue, la radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, il y a depuis quelques semaines la décrue du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Les eaux se retirent considérablement de plusieurs endroits de la ville de Kalemie qui était inondée. Certaines activités économiques reprennent timidement. Un reportage de Paul Amunanga.
Certains endroits comme les maisons d'habitation, les maisons commerciales, les écoles, les hôtels et les routes de la ville de Kalemie qui étaient inondées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga sont de nouveau séchées. Les eaux se sont retirées. À la station service Richa sur le boulevard Lumumba par exemple, les activités ont repris après quelques mois d'interruption suite aux eaux qui ont envahi le lieu. Témoignage de Hubert Kalenga, l'un des responsables. Actuellement, les eaux sont séchées. Cet endroit était complètement inondé et nous avions arrêté de travailler. Nous remarquons à présent que les clients reviennent petit à petit. Une partie de la route est déjà praticable. Nous étions au chômage. Pour sa part, la mairie de Kalemie a installé des motopompes sur le boulevard Lumumba au niveau de la partie inondée du centre-ville pour aspirer les eaux. David Moukebambombo, maire de la ville.
La mairie de son côté a fourni des efforts. Nous avons pris des motopompes pour aspirer les eaux sur le boulevard et les reverser dans le lac. On a travaillé jour et nuit avec des motopompes. Ça a tenu quand même. On a diminué les quantités des eaux. Mais nous constatons avec regret que les eaux sortent du sous-sol.
Précisons qu'à certains endroits du boulevard Lumumba et à l'entrée du quartier d'Ave, il y a toujours une présence accrue des eaux et la traversée s'est faite par pirogue. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Grèce, le nombre d'arrivées d'enfants migrants a quadruplé sur un an, selon l'ONG Save the Children. Plus de 6400 enfants migrants sont déjà arrivés en Grèce entre janvier et juin 2024, soit plus de 4 fois le nombre pour la même période en 2023. L'ONG Save the Children dénonce leurs conditions d'accueil. Ces jeunes ne sont pas traités comme des enfants à leur arrivée, déplore l'organisation au sujet des difficiles conditions de vie.
L'invité.
Célébration ce jeudi 18 juillet de la journée internationale Nelson Mandela. Une occasion de rappeler que chacun, à son niveau, peut agir et inspirer le changement autour de lui. Cette journée a été instituée en 2009 par l'UNESCO pour honorer les 67 ans de lutte de Nelson Mandela au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Pour en parler, professeur Kaumba Lufunda, sénateur honoraire et auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela, et l'invité de Radio Okapi, il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Kaumba Lufunda, bonjour.
Bonjour, bien cher Michel Kifindangoy.
Nous célébrons ce jeudi la journée internationale Nelson Mandela. En quoi consiste cette journée?
Merci de m'associer à la célébration de la journée internationale qui est dédiée à cette immense icône africaine qu'est Nelson Mandela. La journée internationale Nelson Mandela, nous la célébrons aujourd'hui, le 18 juillet, parce que c'est une date qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. En fait, il était né le 18 juillet 1918. Il est décédé, comme nous le savons bien, le 5 décembre 2013. Et alors, depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO avait décidé de lui dédier une journée. Et c'est pourquoi on avait retenu la date de sa naissance. C'est une manière de rappeler à la conscience humaine l'immense contribution de Nelson Mandela en matière de lutte contre l'apartheid, la ségrégation raciale, de rappeler son engagement en faveur de la promotion d'une culture de la paix, et aussi de rappeler à la mémoire collective l'accession du premier noir à la magistrature suprême en République sud-africaine.
Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie au service de l'humanité. Qu'est-ce que les générations actuelles peuvent retenir de ce personnage africain et prix Nobel de la paix?
Vous savez, Nelson Mandela avait consacré 67 ans de sa vie à la lutte pour la reconnaissance des droits humains et de la diversité culturelle, pour la justice sociale, l'égalité des êtres humains, la réconciliation nationale et pour le renforcement de la diversité, la reconnaissance de la diversité culturelle. Eh bien, tous ces idéaux, nous devons pouvoir les entretenir et c'est pourquoi on demande à tous les humains à consacrer quelque temps, au moins une fois par an, parce qu'on dit lui il a consacré 67 ans. Nous on nous demande juste de consacrer 67 minutes à cela, à la justice sociale, à la réconciliation nationale, à la promotion de la diversité culturelle. Et il vous souviendra, il nous souviendra à tous que Nelson Mandela a promu la philosophie de l'Ubuntu, Bomoto, Bumuntu, le fait d'être un humain. C'est quoi être un humain? Nous sommes des hommes. Nous sommes avec d'autres hommes. Et avec eux, nous sommes dans des relations de reconnaissance de la dignité de chaque homme. La reconnaissance réciproque.
Nelson Mandela a joué un rôle majeur dans la recherche de la paix en RDC, avec notamment la négociation de l'Outenika entre le président Mobutu et Laurent Désiré Kabila. En quoi le leadership de Nelson Mandela peut-il être un modèle pour la classe politique d'une RDC aujourd'hui déchirée par une crise sécuritaire et de légitimité?
Nelson était venu jouer le rôle de réconciliateur entre Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Et quand Mzee Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il avait compris la leçon. Il a instauré la révolution, pardon. Il ne faut pas éliminer tous les barons de l'ancien régime, vous coupez la tête et les oreilles, non? On instaure la révolution, pardon. Et on a vu, lorsqu'il y a eu passation pacifique du pouvoir d'État, le peuple était réconcilié avec ses dirigeants. C'est vrai, quelques temps après, il y a eu éclatement de la coalition. Et jusqu'à présent, nous en subissons le contre-coup sur le plan de la cohésion nationale. La situation est d'autant plus préoccupante que la guerre s'en est mêlée, alors que la classe politique issue des élections de 2023, cette classe est en train de s'empoigner. On oublie l'intérêt national, on est en train de rechercher les positionnements personnels. Eh bien, plus que jamais, Nelson Mandela devrait nous inspirer tous.
Dans votre ouvrage Ubuntu, vous vous inspirez de l'idéologie de Nelson Mandela pour prôner les valeurs de paix et de cohabitation pacifique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui des leçons ou des enseignements laissés par Nelson Mandela que vous relayez à travers votre ouvrage?
En somme, le comportement qu'affiche la classe politique aujourd'hui, ça ressemble à des complots ourdis contre le peuple. Ces complots prennent quelle forme? Sous forme de corruption, de détournement des deniers publics, de conspiration contre le bien-être du peuple. Le peuple souffre, on le dit tous les jours, quand on voit le prix du pain, le prix de ceci. Et puis quand on y ajoute aussi des dérives tribales, Eh bien, si notre démocratie connaît des difficultés, ce n'est pas à cause du peuple. C'est le peuple qui est victime de cette situation. C'est donc de la responsabilité de la classe politique qui refuse de respecter les lois. C'est au milieu de la justice que les gens ne veulent pas dire les droits. On ne veut pas reconnaître au peuple ses droits à une vie saine et digne. Eh bien, tout cela devrait être corrigé. Corriger cela, ce serait véritablement suivre le modèle de Nelson Mandela.
Professeur Kaoumba Lufunda, je vous remercie.
Merci, cher ami.
Et c'est la fin de ce journal, l'édition de 15h sur Radio Okapi, un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Restez à l'écoute des programmes du Média de la Paix.